Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, merci de votre fidélité à La Voix de l'Amérique en direct de Washington depuis le Studio 13. Nicolas Pineau et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une en ce vendredi avant le week-end, l'épidémie d'Ebola qui progresse rapidement au Nigeria, pays le plus peuplé du continent.
L'opposition congolaise appelle à manifester contre une éventuelle modification de la Constitution.
Une personne se suicide toutes les 40 secondes dans le monde. Nous ferons le point ce matin.
Il faut agir maintenant parce que le suicide, on peut le prévenir.
Sans oublier les sports en fin d'émission et le retour en musique de Roger Muntou, mais tout d'abord le journal. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Bonjour.
Les premiers experts français arriveront aujourd'hui à Conakry. Ils resteront 3 semaines en Guinée pour accompagner les équipes sanitaires sur place. C'est aussi ce vendredi que prend fin la conférence de Genève sur l'Ebola. Près de 200 experts discutent depuis hier des traitements possibles, voire d'un futur vaccin contre le virus, mais aussi de la prévention. Henri Francisque.
À ce jour, aucun remède ou vaccin n'existe contre ce virus mortel. Mais un sérum expérimental, le ZMAP, mis au point par une société américaine, a été injecté à un petit nombre de patients, dont certains ont survécu. Un médecin américain récemment infecté avec le virus Ebola au Libéria sera rapatrié aujourd'hui aux États-Unis pour y être traité. Rick Sacra, 51 ans, sera soigné et placé en quarantaine au centre médical du Nebraska à Omaha. Rien ne semble arrêter cette épidémie d'Ebola, qui a déjà tué plus de 1 900 personnes et infecté au moins 3 500, selon l'Organisation mondiale de la santé. De son côté, le ministre nigérian de la Santé, Onyebuchi Chukwu, a annoncé hier que le virus Ebola a tué 7 personnes et infecté 18 dans son pays, dont un médecin décédé le 22 août à Port-Harcourt, au sud du pays. Pour l'OMS, le cas du médecin est préoccupant, car il a continué à traiter les patients et a donc été en contact avec plusieurs personnes. L'organisation prévient que l'épidémie d'Ebola à Port-Harcourt risque de se propager plus vite que celle de Lagos, la plus grande ville du Nigeria.
Le Nigeria, justement, dont les États-Unis se disent préoccupés par la multiplication des attaques terroristes de Boko Haram qui gagnent du terrain dans le pays. L'avenir même de ce géant de l'Afrique se voit ainsi sérieusement menacé, estime Washington, ici à Kaba.
C'est la secrétaire d'État adjointe américaine chargée des affaires africaines qui a tiré la sonnette d'alarme hier à Abuja. Linda Thomas-Greenfield, qui boucle ce vendredi sa tournée au Nigeria, s'est dite très inquiète par la capture présumée de Bama et un éventuel raid d'envergure de Boko Haram sur Maiduguri, la capitale de l'État de Borno, dans le nord-est du pays. L'armée nigériane affirme toujours contrôler Bama, mais des habitants qui disent avoir fui la ville maintiennent le contraire. Pour Madame Thomas-Greenfield, le temps du déni et de la fierté est révolu, et chaque jour qui passe ne fait qu'empirer la situation sécuritaire. L'avenir du Nigeria et de ses enfants est en danger, a averti la diplomate, appelant le gouvernement nigérian à se ressaisir et à affronter la réalité. À Maiduguri, une dizaine de milliers de personnes, policiers, soldats en retraite et chasseurs ont prêté serment de défendre la ville contre Boko Haram. Près de 10 000 Nigériens sont arrivés au Niger voisin pour le seul mois d'août, portant à plus de 80 000 le nombre de réfugiés dans ce pays d'après l'ONU. Le Cameroun, lui, en compte 40 000.
Au moins 28 personnes sont mortes et plus de 51 000 ont été sinistrées en raison d'inondations depuis le mois de juin au Niger. C'est ce qu'annonce le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU qui précise que les intempéries ont détruit plus de 4 500 maisons.
Nouvel appel de l'opposition congolaise à une manifestation contre l'intention prêtée au président Joseph Kabila de faire modifier la constitution pour briguer un autre mandat à Kinshasa. Les précisions de Sarah Diaby.
L'appel a été lancé hier à Kinshasa lors d'une réunion publique des forces politiques et sociales pour l'unité d'action, regroupement d'une trentaine de partis parmi lesquels l'UDPS, premier parti d'opposition au Parlement, et l'Union pour la Nation congolaise. Ces formations politiques demandent aux Congolais de sortir le 13 septembre pour faire échec à la volonté dictatoriale de changer la constitution en vue d'instaurer une présidence à vie. Les orateurs d'hier ont aussi exigé la libération du secrétaire général de l'Union pour la Nation congolaise, Bertrand Ewanga, arrêté au lendemain d'une manifestation similaire organisée le 4 août. Ce dernier est placé en résidence surveillée dans un hôtel de Kinshasa où se tient son procès.
Toujours en RDC, Global Witness appelle la société pétrolière britannique Soco à se retirer pour de bon du parc national des Virunga, la plus vieille réserve naturelle d'Afrique dans l'est de la République démocratique du Congo. Même si l'exploration a été suspendue depuis 2011 par Kinshasa, l'ONG déplore que ce site patrimoine mondial de l'UNESCO soit l'objet actuellement d'une étude environnementale à laquelle participe Soco.
Nouvel accrochage hier entre soldats français et miliciens anti-Balaka à Bossangoa, dans le nord-ouest de la Centrafrique. Un échange de tirs qui aurait pour origine les opérations de désarmement dans la ville.
La police sud-africaine a escorté le Premier ministre du Lesotho jusqu'à sa résidence à Maseru, la capitale, quelques jours après un coup de force militaire qui l'avait contraint à fuir en Afrique du Sud. Jacques Aristide.
Thomas Tabané est rentré au pays en toute sécurité, a assuré l'adjointe au commissaire de police Leloka Mafatsoe, qui n'a toutefois pas indiqué jusqu'à quand les forces de l'ordre sud-africaines seraient présentes au Lesotho. Le patron de la police du Lesotho, Kotatsu Tswana, est lui aussi de retour après son court exil en Afrique du Sud. Il a aussitôt ordonné à la police nationale de reprendre le service. Samedi, les militaires avaient sommé les policiers de rester chez eux ou de ne pas porter l'uniforme pour éviter toute attaque. L'armée avait aussi pris le contrôle des postes de police, affirmant avoir agi sur des informations selon lesquelles les forces de l'ordre avaient reçu l'ordre de réprimer une manifestation politique et niant par la même occasion toute tentative de coup d'État. Le chef du gouvernement Tabané et son adjoint Motejua Metsing s'affrontent depuis juin dernier lorsque M. Tabané avait suspendu le Parlement pour empêcher une motion de censure. La communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, a décidé l'envoi d'un émissaire et une équipe d'observateurs au Lesotho dans le but de rétablir l'ordre et la paix dans ce petit pays d'environ 2 millions d'habitants.
Crise post-électorale en Côte d'Ivoire, les premières audiences publiques devant confronter bourreaux et victimes vont débuter lundi prochain, une date confirmée par Charles Konan Bani, président de la commission Justice, Vérité et Réconciliation.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 5h37, temps universel dans le reste du monde, suite du sommet de l'OTAN au Pays de Galles tout à l'heure. Alors qu'Américains et Européens préparent déjà de nouvelles sanctions économiques contre la Russie, les pays de l'Alliance ont accru leur coopération avec l'Ukraine. Ils se sont engagés à fournir une plus grande aide dans les domaines de la sécurité et des réformes gouvernementales. En revanche, Lionel Gahima, aucune aide militaire létale.
Selon le président ukrainien Petro Porochenko, quelques États membres ont tout de même offert de l'aide létale. Mais l'Ukraine, qui n'est pas membre de l'Alliance Atlantique, ne peut compter essentiellement que sur elle-même dans les affrontements qui l'opposent aux troupes russes et aux séparatistes dans l'Est. C'est l'une des raisons pour lesquelles, a expliqué M. Porochenko, il a accepté les pourparlers d'aujourd'hui au Bélarus, bien qu'il s'attende à des discussions très difficiles sur ses principaux objectifs, un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes.
This is a very tough challenge before the very important.
Je crois qu'il s'agit d'un grand défi avant les très importantes négociations. En tenant compte du fait que la souveraineté de l'Ukraine, l'intégrité territoriale de l'Ukraine et l'indépendance de l'Ukraine ne sont pas négociables. Le secrétaire général de l'Alliance, Anders Fogh Rasmussen, a montré son scepticisme en parlant de soi-disant plans de paix de Vladimir Poutine, le président russe. A signalé que les plans de l'OTAN sur la fin de sa mission de combat en Afghanistan en décembre ont été confirmés hier au sommet.
Au moins 17 personnes ont été tuées hier dans deux attentats à la voiture piégée contre des quartiers majoritairement chiites de Bagdad. Aucune revendication pour le moment, mais l'État islamique est soupçonné après avoir menacé d'envahir la capitale irakienne. Par ailleurs, le bras droit du chef de l'État islamique aurait été tué hier dans un raid aérien de l'armée irakienne dans le nord du pays. C'est ce qu'annonce le chef d'État-major, le général Babaker Zabari, mais aucune source indépendante n'a pu confirmer l'information.
Enfin, pour être complet sur le sujet, sachez que selon le Pentagone, une dizaine d'Américains se battraient actuellement aux côtés des djihadistes de l'État islamique. Au total, Washington estime qu'une centaine de citoyens américains se battent en Syrie. La Syrie qui inquiète les États-Unis, qui craignent que les djihadistes ne s'emparent des armes chimiques que le régime syrien pourrait encore cacher. Samantha Powell, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, s'est inquiétée hier que l'État islamique ou d'autres groupes puissent mettre la main dessus.
Ici aux États-Unis, l'ex-gouverneur républicain Bob McDonnell de la Virginie a été reconnu coupable de 11 chefs d'accusation de corruption et abus de pouvoir. Sa femme Maureen a été également condamnée par le tribunal fédéral de Richmond. Pour l'ancien sous-secrétaire d'État aux affaires africaines Herman Cohen, le message de ce verdict est clair.
Aux États-Unis, il y a 50 États, il y a 50 gouverneurs, et le poste de gouverneur ici dans notre pays est très prestigieux, très important. Ça montre que quelqu'un aussi important dans le monde politique n'est pas au-dessus de la loi. Tout le monde est sujet à la loi. Donc, c'est une importante leçon pour nous et pour tout le monde. D'abord, l'État de Virginie est parmi les plus importants dans le plan politique. Ça bascule souvent entre démocrates et républicains. C'est juste à côté de Washington. C'est un bel homme qui parle bien. Et beaucoup de monde parlait qu'il pouvait être le vice-président, peut-être même président plus tard.
Enfin, le Dalaï Lama a renoncé à se rendre à un sommet des prix Nobel de la paix au Cap le mois prochain. C'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement sud-africain qui s'apprêtait à lui refuser son visa pour ne pas indisposer la Chine. C'est la troisième fois que le Dalaï Lama est jugé dans le pays depuis 2009 et l'accession au pouvoir du président Jacob Zuma.
Voilà pour ce journal, vous êtes toujours à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Place à la partie magazine du Monde aujourd'hui. Première escale ce matin au Mozambique, à un mois et demi de l'élection présidentielle. Coup de théâtre hier, le principal opposant, Afonso Dhlakama, a fait son retour sur la scène politique. Claire Morin-Gibourg.
L'accord de paix tant attendu entre le gouvernement mozambicain et l'opposition va-t-il enfin voir le jour ? Afonso Dhlakama, chef de la RENAMO, vient de sortir de 2 ans de clandestinité. Il doit, en principe, rencontrer le président Armando Guebuza aujourd'hui pour que son parti puisse participer à nouveau à la vie politique. Pour Chadrak Guto de l'Université d'Afrique du Sud, l'accord de paix qui attend d'être signé a des implications majeures.
Cette réunion est très importante parce que le Mozambique n'a pas besoin d'une autre guerre ou d'un nouveau conflit. Ils doivent se concentrer sur la participation aux élections et laisser les gens décider d'eux-mêmes.
Ancien groupe rebelle anticommuniste, la RENAMO, a par le passé accusé le Frelimo, le parti au pouvoir, d'avoir truqué les élections et cherché à marginaliser l'opposition. Selon la Constitution, le président Armando Guebuza, également dirigeant du Frelimo, ne peut pas briguer un troisième mandat. Dimfo Motsamai, de l'Institut d'études de sécurité basé à Pretoria.
The point is really to...
Il s'agit de créer un environnement propice à des élections pacifiques en donnant à la RENAMO l'assurance que ses demandes vont être respectées. Il s'agit d'une stratégie visant à les empêcher de perturber les élections. Mais c'est aussi la première fois qu'il y a un tel dialogue politique aussi ouvert.
Depuis la fin de la guerre civile en 1992, le Mozambique s'est doté d'une constitution et a organisé plusieurs élections. Le pays est devenu un paradis touristique et la découverte récente de gisements massifs de gaz naturel lui a donné un véritable coup de pouce économique. Un développement mis à mal lorsque des combats ont éclaté en octobre dernier entre les forces gouvernementales et la RENAMO, qui a annoncé la rupture de l'accord de paix de 1992 avec le Frelimo. Dimfo Motsamai avertit qu'un accord de paix seul n'est pas une garantie et que l'on peut craindre les violences post-électorales. Les électeurs sont attendus aux urnes le 15 octobre prochain.
Il est 5h43, temps universel, vous êtes toujours à l'écoute de La Voix de l'Amérique, direction le Mali, où le gouvernement travaille au retour des populations déplacées par la guerre dans le nord du pays. Les cercles des régions de Mopti ont ainsi reçu récemment des voitures et des motos pour aider les administrations locales à accompagner les populations. Kassim Traoré nous en dit plus depuis Bamako.
En plus de la réhabilitation et de la reconstruction des bâtiments administratifs, le gouvernement malien est en train de travailler pour faciliter le retour des populations. C'est pourquoi le gouvernement a remis 10 véhicules tout-terrain et 34 motos au gouverneur de la région de Mopti.
Notre joie est immense. Voilà des moyens qui viennent au bon moment. Dans peu de temps, l'administration doit relever beaucoup de défis parce que beaucoup de déchéances nous attendent. Dans quelques mois, c'est le RAVEC, notamment à partir du 1er octobre. Mais aussi après, conformément aux instructions du ministre, suivra le renouvellement des conseils de village et certainement après les élections communales. Tout cela demande des moyens de déplacement et même les dotations des préfets sont aujourd'hui vieillissantes. C'est dit que ces moyens viennent vraiment à temps opportun et que nous les utiliserons à bon escient.
Ces voitures et motos sont destinées aux préfets, sous-préfets des cercles de Mopti. Les bénéficiaires se réjouissent de ces gestes gouvernementaux.
Il faudrait maintenant qu'on fasse bon usage des infrastructures qui ont été réalisées, des équipements qui ont été reçus et des moyens logistiques pour dire définitivement que ce programme, il fallait vraiment le mettre en œuvre.
De temps en temps, que les ministres de la République viennent nous voir au niveau de la région et qu'on échange, cela va créer une certaine dynamique en matière de développement. Parce qu'on va toujours se sentir concerné, on va toujours se sentir intéressé quand on a nos responsables nationaux qui viennent nous voir.
Chekna Amadi Seydi Diawara, ministre de la Planification, de l'Aménagement du Territoire et de la Population.
Mopti représente une infime partie de ce budget parce qu'il a été moins touché que d'autres, heureusement, par la crise que nous avons connue. Mais c'est symbolique, la preuve qu'aucune administration n'est oubliée, que ce soit dans les régions du Nord ou en dehors des régions du Nord. C'est un programme qui concerne une volonté de l'État, du président de la République en particulier, et du gouvernement d'accompagner le retour de l'administration, l'efficacité de l'administration, la représentativité de l'administration et la qualité des services délivrés aux populations dans toutes les régions, dans toutes les localités du Mali.
Ces dons du gouvernement malien s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence des régions nord du Mali qui vise la reconstruction et la réhabilitation avec l'aide des partenaires de l'État malien. L'objectif est de reconstruire et de réhabiliter tous les bâtiments détruits au moment de l'occupation djihadiste. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Retour aux États-Unis où certains démocrates et plusieurs leaders religieux exhortent le président Obama à prendre des décrets pour restructurer le système d'immigration américain. D'autres démocrates faisant face à une réélection difficile en novembre espèrent que le chef de l'exécutif différera de telles mesures. Les explications d'Henri Francisque.
Le président Obama et ses proches conseillers sont engagés dans un débat interne sur les questions des expulsions d'immigrés en situation illégale et de l'afflux à la frontière sud des États-Unis de mineurs non accompagnés originaires d'Amérique centrale. Le chef de l'exécutif avait annoncé en juin qu'il allait prendre des décrets à ces sujets avant la fin de l'été. Mais la Maison-Blanche dit maintenant que ces décisions viendront plus tard. L'un des principaux leaders politiques défendant la cause des immigrés, le député démocrate Luis Gutiérrez, a appelé le président Obama à défendre ses convictions.
Car il vaut mieux que le président prenne la décision maintenant, de façon claire pour le public américain, de manière transparente avant les élections.
Dans la même lancée, le député Gutiérrez a demandé aux membres du Parti démocrate qui demandent de retarder le processus de ne pas le bloquer. Les démocrates ne peuvent pas se tenir aux côtés des immigrants uniquement quand cela leur convient, a-t-il souligné. Une opinion que partage Clarissa Martinez de Castro du Conseil national de l'ONG hispanique, la RASA.
Nous sommes profondément déçus d'apprendre que certains seraient en train de plaider pour que le président retarde son décret annoncé de longue date sur l'immigration.
Le Sénat a adopté une réforme globale de l'immigration il y a plus d'un an, mais la Chambre des représentants n'est pas parvenue à soumettre la question au vote. En juillet, celle-ci a plutôt adopté un projet de loi axé sur le renforcement de la sécurité aux frontières. Vu l'afflux des enfants centro-américains à la frontière avec le Mexique, un groupe de leaders religieux a écrit au président Obama pour lui dire de veiller à ce que les droits des enfants ne soient pas ignorés dans le débat général sur l'immigration. Le républicain Buck McCune, président de la Commission des Forces armées à la Chambre des représentants, est de notre avis. Il dit qu'il faut revoir la loi américaine de 2008 protégeant les enfants contre le trafic d'êtres humains, car selon lui, cette mesure encourage les enfants à tenter le périlleux voyage vers les États-Unis.
C'est un problème de réfugiés là-bas à la frontière. Et le président, il y a 2 semaines, nous a dit qu'il allait appuyer la modification de la loi de 2008. Maintenant, ils sont contre, donc il a changé d'avis.
Pour l'heure, les experts ne voient pas très bien quel type de réforme le président Obama pourrait mettre en œuvre pour résoudre le problème des mineurs non accompagnés ou celui des 11 millions de sans-papiers vivant aux États-Unis.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Sujet grave ce matin, le suicide qui fait chaque année 800 000 victimes dans le monde. L'Afrique n'est pas épargnée par le fléau, même si l'Asie et l'Europe demeurent les plus touchées par ce phénomène. Pour un éclairage, Jacques Aristide a joint le docteur Alexandra Fleischmann de l'OMS.
Le suicide est un problème mondial. Les pays avec revenus élevés sont affectés en même façon que sont affectés les pays avec moins de revenus. Donc, il faut agir maintenant parce que le suicide, on peut le prévenir. En Afrique, on a moins de statistiques quand même. On est dans une situation où on peut faire des estimations et les estimations disent que le taux de suicide est en croissance en Afrique.
Quelles sont les raisons qui expliquent cette situation?
Ce n'est pas une réponse qu'on en trouve. Il y a des facteurs de risque et ce sont les problèmes de santé mentale, mais aussi le problème avec l'abus des substances, alcool particulièrement. Mais c'est aussi des problèmes si on a quelqu'un qui est affecté par la violence ou la isolation, ou aussi si la société et le système de santé peuvent offrir des services pour aider les personnes qui en ont besoin.
Il y a la directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, qui a déclaré qu'il faut agir pour répondre à un grave problème de santé publique resté trop longtemps tabou. Quelles sont les mesures que préconise l'OMS?
Les mesures que nous proposons, c'est de réduire l'accès aux méthodes de suicide, par exemple les pesticides et les armes à feu. Aussi, les médias jouent un rôle important dans la prévention des suicides. Ils peuvent aussi donner une information ou trouver de l'aide. Une autre intervention est d'introduire des politiques contre abus d'alcool et aussi dans le niveau individuel. Si on a une personne qui a déjà fait une tentative de suicide, il faut donner de l'aide, il faut aussi suivre cette personne. Au niveau du service de santé, il faut apprendre aux assistants qui travaillent dans la santé, il faut leur apprendre d'identifier et traiter les maladies psychiques et aussi l'abus d'alcool.
Le docteur Alexandra Fleischmann de l'OMS était jointe à Genève. Place au sport. À présent, dans cette émission, nous accueillons Timothée Donangmaï. Bonjour Timothée.
Salut Nico.
On commence par du foot africain, début de la phase des groupes des éliminatoires de la CAN 2015 qui se jouera au Maroc. Des matchs évidemment menacés par l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest.
Et oui Nico, par mesure de précaution, la Guinée et la Sierra Leone devront jouer tous leurs matchs à l'extérieur. Ainsi, le Sélection nationale de Guinée qui joue dans le groupe E affrontera le Togo à Casablanca, tandis que le Ghana jouera contre l'Ouganda. Dans le groupe D, la Sierra Leone effectuera son déplacement à Abidjan après que les autorités ivoiriennes eurent finalement donné leur feu vert et le Cameroun affrontera la RD Congo.
On va justement écouter Florent Ibengue, le sélectionneur des Congolais, qui doit faire face à une cascade de blessures pour ce match.
Yves Diba est blessé, donc quoi qu'on fasse, il est blessé, donc on ne peut pas faire autrement. Mbokani est blessé, on ne peut pas faire autrement. Trezor Poutou est blessé, on ne peut pas faire autrement. Assombalanga a décliné la sélection alors qu'il était très enthousiaste. À trois reprises, quand on lui a parlé, il était très heureux de pouvoir venir. Et puis quand la sélection est arrivée, il a décliné. Bon, c'est tout. Un entraîneur aime toujours avoir tout son effectif pour pouvoir faire les bons choix. Là, ils ne sont pas là. Mais bon, le pays ne va pas s'arrêter de tourner. Les Léopards ne vont pas s'arrêter de tourner parce que ces joueurs ne sont pas là. On va jouer sans eux et puis avec toujours la volonté d'aller gagner.
C'était Florent Ibengue. Le reste du programme, Timothée.
Soudan, Afrique du Sud et Nigeria-Congo dans le groupe A. Éthiopie, Algérie et Mali-Malawi dans le groupe B. Gabon, Angola et Burkina Faso, Lesotho dans le groupe C.
On va justement écouter le reportage de Salif Kabore sur cette confrontation au stade du 4 août à Ouagadougou.
Paul Put et ses poulains ne désarmeront pas face aux Lesotho. Les vice-champions d'Afrique veulent entamer la série de matchs par une victoire à Ouagadougou Et le milieu offensif burkinabé, Jonathan Pitropa, place la barre à l'épreuve des phases finales.
L'objectif, c'est la qualification. Je pense qu'on est conscient que voilà, on est entendu maintenant. Et même nous, on a besoin de se qualifier encore pour confirmer quand même notre bon parcours à la CAN 2013. Ça sera une bonne chose si on arrive à se qualifier. Donc on est concentré, on essaie de retrouver le même groupe, le même état d'esprit qu'on avait eu pendant la CAN pour essayer vraiment d'aborder les matchs avec beaucoup de concentration parce que c'est sûr que ça ne sera pas facile. Mais je pense que tout est possible.
Lesotho est une équipe à prendre très au sérieux, estime le capitaine des étalons de Burkina Faso, Charles Kabore.
C'est une équipe qui a fait pratiquement 7 matchs, qui n'a pas perdu. Et maintenant, c'est à nous de savoir les failles et comment on peut aborder le match pour gagner le plus facilement possible. De toute façon, il n'y a pas de match facile, mais à nous de mettre les chances de notre côté pour rendre le match facile.
Les supporters des étalons de Burkina Faso croient à leur équipe. Et les pronostics ne manquent pas du tout.
2-0 en faveur du Burkina. Alain et Pitropa.
2 buts d'Alain Traoré, 1 but pour Pitropa.
4-0.
Je dirais Bertrand, Bassé, Nakoulma et puis Alain.
Hier, je les ai vus à l'entraînement et je pense qu'ils méritent.
Les étalons du Burkina Faso partiront immédiatement vers Luanda en Angola après le match de samedi où ils livreront le mercredi prochain leur deuxième match des éliminatoires contre l'Angola. Ouagadougou, Salif Kabore, la voix de l'Amérique.
Autre match, Timothée.
Zambie, Mozambique et Niger Cap-Vert dans le groupe F. Et enfin, Sénégal, Égypte et Tunisie, Botswana dans le groupe G.
Et en Europe, hier soir, l'Italie a battu les Pays-Bas 2-0 à Bari en amical. Autre succès à domicile, la France qui a battu l'Espagne à Paris 1-0. Et puis, le mondial de basket en Espagne. Les États-Unis, la Grèce et l'Espagne finissent la phase de groupe invaincus.
Les Américains tenants du titre ont remporté leurs 5 matchs avec une marge moyenne de 33,2 points. Ils croiseront en 8e de finale leurs voisins mexicains. Quant aux Espagnols, ils joueront contre les Sénégalais, les seuls rescapés africains de cette compétition. La Grèce jouera contre la Serbie, tandis que la France affrontera la Croatie.
Enfin en tennis, l'US Open à New York. Au bout de la nuit, Roger Federer a éliminé Gaël Monfils en 5-7 et accède aux demi-finales. Le Suisse qui rencontrera le Croate Marin Cilic, qui s'est aussi qualifié.
Il a défait Thomas Berdych en 3-7, 6-2, 6-4 et 7-6. Ainsi donc, après 4 années de patience, Cilic s'offre enfin une demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem.
Merci beaucoup, c'était Timothée Donogmaï pour la page des sports. Nous accueillons à présent dans ce studio un homme en forme pour parler musique. C'est Roger Muntou qui revient de vacances. Bonjour Roger.
Bonjour Nico. La chanson Boom Clap de l'auteur-compositrice interprète britannique Charlotte Aitchinson, plus connue sous son nom de scène, hein, Charlie XCX, a gardé la 10e place dans le hit parade américain. Écoutons.
Roger, ça doit bien marcher pour elle, hein, puisqu'elle a notamment sorti son premier album studio True Romance, c'était en 2013. On dit même que sa mère est ougandaise.
Nico, Charlotte Aitchinson est née à Stevenage dans le Hertfordshire. Elle est issue d'un père écossais et, vous l'avez bien dit, d'une mère indienne de l'Ouganda. Elle a commencé à écrire ses propres chansons lorsqu'elle avait encore 14 ans. Charlie XCX a collaboré, hein, Nico, en 2012 sur la chanson I Love It du groupe Icona Pop. Puis en 2014 sur Fancy Diggy Azalea, une chanson qui continue à cartonner, hein, dans plusieurs pays d'ailleurs.
Charlie XCX, Boom Clap. Merci beaucoup Roger.
De rien Nico, coucou à tous nos auditeurs de Niamey.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs 20h temps universel pour le RM Show. Voilà, ainsi s'achève notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On va saluer les fidèles du monde aujourd'hui. Delphin Bahati à Bukavu en RDC et Bakay Togola, c'est à Kaye au Mali. Comme eux, retrouvez-nous sur www.lavoixdelamerique.com ou sur notre page Facebook. Anne Albertson et Nicolas Pinault étaient avec vous ce matin en direct de Washington. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end à l'écoute de La Voix de l'Amérique.